Bonjour à toutes et à tous. Donc mon nom c'est effectivement David Rossé et puis je suis le pasteur de cette église. Et puis depuis quelques temps, on est en train de visiter les bases de notre foi, les bases de la foi chrétienne. Et puis on a déjà abordé différents aspects, puis notamment l'aspect que le peuple de Dieu est un peuple qui était dans une certaine région géographique, Israël. Et puis c'est ce peuple que Dieu avait choisi dans ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un Messie. Alors vous avez vu lequel j'ai choisi. Je suis fan du FC Barcelone, vous le savez. Alors j'ai choisi celui-là, c'était un peu facile à faire, je suis d'accord. Mais c'est intéressant parce que je pense que si vous vous promenez dans la rue et que vous portez la question « Qui est le Messie ?», je pense que vous avez 9 chances sur 10 qu'on vous parle du footballeur du FC Barcelone plutôt que de Jésus-Christ. Messie, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Pardon ? Ouin. Ouin. Alors ça, c'est encore beaucoup mieux. Ouin. Ça veut dire quoi ? Ouin, ouin, c'est un gag. Je peux vous la faire aussi ? Ouin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui vient, ouais, alors ça c'est déjà une interprétation. Et Ariane. Envoyé, ouais, c'est pas mal aussi. Envoyé, ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais, ouais. C'est celui qui reçoit l'onction, alors c'est pas beaucoup mieux, mais c'est celui qui reçoit quelque chose qui vient de Dieu de spécial. Habituellement, c'était les rois qui recevaient cette onction de Dieu, c'est-à-dire que c'était de l'huile qui était mise sur leur tête pour signifier qu'ils avaient un statut particulier auprès de Dieu. C'était Dieu qui les avait choisis et effectivement qui les avait envoyés pour accomplir une mission. Et Messie, ce n'est pas le footballeur, vous l'avez compris, mais c'est le titre que les premiers chrétiens ont donné à Jésus. Et ce titre, si on le traduit en grec, il s'appelle tout simplement Christ. Alors quand on dit Jésus-Christ, ce que tout le monde connaît là, par contre, on dit simplement Jésus-Messie. C'est exactement la même chose. Messie, c'est en hébreu, Christ, c'est en grec. Et puis chaque fois, ça nous dit que ce personnage qui avait juste un prénom, Jésus, petit à petit, les gens ont remarqué qu'il avait quelque chose de plus, qu'il avait quelque chose qui venait pas uniquement de sa stature et de son enveloppe terrestre, mais il avait quelque chose qui venait d'en haut. Et cette onction, c'est ça qui vient d'en haut, c'est cet Esprit Saint qui descend sur lui et que les gens petit à petit ont reconnu. C'est pour ça que l'on appelle Jésus le Christ. Jésus le Messie, celui qui vient vers nous et qui nous rassemble autour de Dieu. Et puis je crois que c'est vraiment ça qu'on veut vivre ce matin. C'est cet aspect-là, parce qu'on pourra donner des dizaines d'aspects, de caractéristiques de qui est Jésus pour nous. Ce matin, j'ai envie de me concentrer sur cette caractéristique que Jésus est celui qui nous rassemble, toutes et tous. Et c'est en cela, de manière particulière, qu'il a reçu cette onction qui vient de Dieu. Comme un peu le footballeur rassemble des millions de personnes autour de lui, comme ce footballeur rassemble des millions de personnes, à bien plus forte raison, Jésus nous rassemble encore ce matin, en 2018, et moi je suis exactement dans la même joie que Sébastien, de se dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à ce que les chrétiens se rassemblent encore de la sorte 2000 ans après sa venue. C'est bien qu'il y a quelque chose quand même d'un peu particulier, que ce n'est pas juste un nom, que ce n'est pas juste un titre, il y a bien quelque chose qui est reçu de la part de Dieu et qui continue de nous rassembler. C'est vraiment le plan de Dieu pour les hommes. Ça a commencé par un peuple particulier. Et tout à coup, avec Jésus-Christ, celui qui rassemble, il y a un élargissement qui se fait de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Il y a un élargissement qui est complètement révolutionnaire. Et c'est ce que l'on voit dans un texte que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, qui a été écrite, cette épître, par un magnifique apôtre qui s'appelle Paul. Et ce Paul, c'est celui qui a compris le premier que cette alliance que Dieu veut faire avec les hommes, elle a besoin de cet élargissement révolutionnaire. Il ne se contente plus d'un seul peuple quand on est à une réalité géographique, Israël, mais ça s'élargit, partant d'Israël, ça s'élargit à absolument tout le monde. Et il commence, enfin il finit plutôt son épître de cette manière-là, en disant « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Je vous le dis, Dieu est fidèle. C'est pourquoi le Christ, donc le Messie, celui qui est envoyé, est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir les promesses faites par Dieu aux ancêtres. Et les non-Juifs rendent gloire à Dieu à cause de sa bonté. En effet, les livres saints disent « Pour cela je te fêterai parmi tous les peuples et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Les livres saints disent encore « Peuple » au pluriel, « Réjouissez-vous avec le peuple que Dieu a choisi. » Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Et Ésaïe dit aussi, un homme de la famille de Jessé va venir, il se lèvera pour gouverner les autres peuples, et ce peuple mettra leur espoir en lui. Que Dieu, celui qui donne l'espérance, vous remplisse de paix, il vous remplisse de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance, par la puissance de l'Esprit-Saint. Amen. On peut dire qu'il est inspiré, Paul. Hein. Quand il l'annonce, quand il écrit des lettres pareilles, de les recevoir, ça devait être quelque chose. Et puis nous, on peut le recevoir tout à nouveau, ce matin, comme étant des paroles qui nous touchent directement, parce que nous partageons cette même foi que lui avait déjà il y a 2000 ans. Espérance que Christ, celui qui est envoyé de Dieu, nous rassemble autour de lui. Espérance que Christ nous accueille en son sein. Et je trouve très intéressant que Paul, plutôt que de commencer par un développement sur le pourquoi du comment de Christ, il commence toute sa lettre, puis c'est tout le début du chapitre 14 aussi, par une injonction pratique, toute concrète. Et cette injonction, vous l'avez sous les yeux. Accueillez-vous les uns les autres. Il ne commence pas par un raisonnement théologique ou quoi que ce soit. Il commence par une injonction pratique. Les amis, ils ont envie de nous dire, si vous êtes partie prenante de cette nouvelle alliance, le premier geste que j'attends de votre part, d'une certaine façon, c'est de vous accueillir les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu'en premier lieu, nous avons été accueillis par Dieu. L'accueil est au centre de cette bonne nouvelle parce qu'on a d'abord nous-mêmes été accueillis. C'est très intéressant de voir que la foi, dès son essence même, nous met en route et nous fait aller vers l'autre. Moi, je trouve ça assez fascinant et puis assez enthousiasmant de se dire qu'on part en étant en action. Il a compris ça un peu avant tout le monde, Paul, que les promesses qui ont été faites au Père, celles qu'on a vues à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, toutes ces figures tutélaires de l'histoire d'un seul peuple, d'Israël, de David, elles restent valables pour Israël et elles s'étendent à tout le monde. Parce que qu'est-ce qui s'étend à tout le monde? C'est la bonté de Dieu envers sa création, ou bien la compassion de Dieu envers tous les peuples. Et il a compris ça avant tout le monde. Ce qui nous donne une conséquence très pratique, c'est que l'Église que nous formons, le peuple de cette nouvelle alliance, l'ordre qui lui est donné, c'est de s'accueillir mutuellement les uns les autres. Quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre statut social, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire, notre ordre, notre mission, c'est de nous accueillir mutuellement les uns les autres. Et je trouve ça extraordinaire, parce que ce n'est pas avant tout une position politique, parce que souvent, c'est assimilé à une position politique, en l'occurrence plutôt de gauche, où on dit on va favoriser la multiculturalité, favoriser le partage, favoriser différentes choses. Avec l'ordre qui nous est donné de nous accueillir les uns les autres, on est vraiment bien au-delà du rayon politique-politicienne. On est dans quelque chose de bien plus essentiel, de bien plus profond. On est au cœur de l'identité de cette nouvelle alliance qui s'élargit de manière révolutionnaire. Par sa venue même et son amour pour le monde, Dieu envoie son Fils unique, ce qu'il a de plus cher en notre faveur, à tous, sans distinction de quoi que ce soit, sans aucune distinction. Et je trouve que dans notre monde actuel, en Europe, en Suisse, qui est en train de se crisper précisément sur ces questions-là, regardez les titres des journaux, souvent c'est une question de rapport à l'autre, rapport à l'immigration ou à la migration. Dans notre monde qui se crispe là-dessus, qui se tend là-dessus, il y a des choses qui commencent à devenir limites, qui sont en train de se passer. La force et la vigueur de cette interpellation, de cet ordre d'accueillir les uns les autres, elle reste d'une force prophétique qui vient d'en haut, extraordinairement impressionnante. Et en Église, on est appelé à vivre de tout notre cœur cette force prophétique. Et j'ai envie de dire, quelles que soient nos positions politiques, en Église, on est appelé à être quelque chose d'autre, une autre réalité que celle qui a peur de l'autre. On est appelé à vivre pleinement cet « accueillez-vous les uns les autres ». Ce n'est pas une option, ce n'est pas une interprétation, c'est la réalité de la venue de Jésus-Christ, celui qui est envoyé de Dieu dans notre monde. Et je trouve que ça frappe. Ça frappe parce que ça nous donne une direction, ça nous donne un axe et ça nous donne une fidélité qui est actuellement exigeante. Nos histoires, certainement, qu'elles soient différentes par rapport à cette réalité, nos réactions sont certainement différentes. Je pense qu'on a toute une quantité d'arrière-plans différents par rapport à ça, plus ou moins de facilité. Mais il me semble que, si je comprends bien la parole, ce qui ne change pas, c'est cette volonté claire de Dieu qui envoie son Fils pour rassembler autour de lui des gens de toutes origines, de toutes tribus, de tout rang social. Et indépendamment de notre contexte politique et social, c'est cette volonté-là de Dieu que nous sommes appelés à suivre et elle reste valable. Que cela nous plaise ou non, que cela nous arrange ou non. Nous n'avons pas à discutailler ou à murmurer ou pire à rester indifférents à la volonté de Dieu. Elle est là devant nous, exprimée clairement. Et c'est en cela précisément que Jésus est le Messie, le Christ, c'est-à-dire le Sauveur du monde. C'est dans cet accueil inconditionnel toutes et tous. Puis si on s'imagine, si on va un tout petit peu au-delà de nos murs actuels, on s'imagine actuellement ce qui est en train de se vivre sur toute la surface du globe. On se rend compte que ce n'est pas simplement une injonction de quelque chose qui devrait être comme ça, c'est que c'est déjà une réalité que du Japon aux États-Unis à la fin de la journée, des hommes de toute tribu, de toute race, de tout rang social, se seront rassemblés aujourd'hui autour du nom de Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire juste de le penser chaque fois. Quand on dit que Jésus est venu pour les nations, qu'il est venu rassembler les nations, c'est une parole extrêmement prophétique que Paul a portée toute sa vie. Parce qu'à son époque, c'était encore à peu près quelques communautés autour du bassin méditerranéen, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il écrit déjà avec conviction ces textes-là, ces lettres-là, de se dire c'est dans cette direction qu'on doit aller. Vous imaginez la conviction du gars. Il va là où rien n'était encore possible. Et maintenant, 2000 ans plus tard, on voit, si on regarde un peu plus loin que nos murs, que depuis le Japon jusqu'aux États-Unis, depuis l'Australie jusqu'à l'Argentine, tous ces pays sont balayés, toutes ces nations sont balayées par la puissance de l'Esprit. Cette onction qui nous dépasse largement. Alors c'est peut-être des choses que l'on sait, que je vous dis particulièrement de vigueur ce matin, mais c'est intéressant de voir que ce test de l'accueil nous est toujours posé et qu'il est efficace. Je trouve que Paul, il est capable d'une mise en commun magistrale, d'un résumé puissant de l'ensemble de la révélation biblique et ses conséquences pratiques qui deviennent alors évidentes. Puis ça nous rassure un peu que l'on n'est pas complètement à côté de la plaque avec la vision qu'on a choisie, basée sur l'accueil de l'autre, centrée sur cette mission de transmettre l'amour à qui que ce soit. Et ici, je vous l'ai déjà dit, on est au cœur des nations, puisque à Nyon seulement, 130 nations différentes sont représentées sur 20 000 habitants. Je le répète, mais c'est impressionnant. On est au cœur de ce monde touché par la grâce de Jésus-Christ qui se révèle à toutes les nations, à Israël, et qui s'étend à toutes les nations. Accueil qui se vit, par exemple, avec le repas que nous prenons en commun chaque dimanche, quel que soit notre statut. Nous passons le pain d'une personne à l'autre. Si possible, on se regarde, on se bénit mutuellement. Nous mangeons dans cette même miche de pain. Et en principe, là c'est une petite pique, on boit dans la même coupe. Ce ne sont pas des lois gravées dans le marbre, évidemment, il y a aussi des petits gobelets, mais de simples gestes qui engagent sur cette voie de l'accueil de l'autre. Accueil de l'autre et accueil de qui nous sommes aussi, parce que premièrement, nous avons été accueillis par Dieu. Il y a aussi notre week-end d'église qui est clairement dans ce but-là, de se dire de construire ces relations-là avec celui qui est à côté de moi sans que je l'ai choisi. Et puis Paul nous pose finalement cette question très actuelle, est-ce que certains chrétiens ne sont pas plus légitimes que d'autres? Et puis là, je reprends un texte qui était cette semaine dans le guide de la Ligue, qui m'a interpellé en commentaire. L'accueil de la personne, entre guillemets, extérieure à notre communauté de foi reste un enjeu actuel. En effet, nous accordons encore beaucoup d'importance aux, entre guillemets, légitimités diverses dans nos églises. Les membres de la famille du responsable prennent-ils toutes les décisions importantes? Les nouveaux venus sont-ils fidèles aux principes des fondateurs? Quel accueil reçoit celui ou celle qui a de mal à se conformer aux habitudes culturelles? Et la personne qui pose des questions dérangeantes, qu'est-ce que l'on en fait? Autant de questions, si on creuse un tout petit peu au niveau pratique, qui nous posent tout un défi. Et oui, d'accueillir tout le monde et de voir cette réalité des nations qui se réunissent, c'est tout un défi et c'est tout un enjeu. N'allez pas croire que je suis naïf en vous présentant ces choses-là ce matin. Et c'est tout un enjeu qui occupe la quasi-totalité des livres du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais toutes les épîtres que Paul envoie, ce sont toutes des épîtres qui ont pour thème finalement l'accueil de l'autre et les petits graissements que cela peut susciter, les différentes tensions que ça occasionne, parce que précisément on est différent et qu'on a de la peine à vivre tous ensemble. On peut continuer toute la lecture du Nouveau Testament avec ces lunettes-là, puis vous verrez que c'est intéressant. C'est toujours des dynamiques communautaires, des dynamiques où on doit se mettre ensemble les uns les autres, s'accorder les uns les autres pour être fidèle à cette vocation du Christ qui nous rassemble. À aucun moment, Paul ne remet en cause cette vocation-là de Christ qui rassemble. À aucun moment, il dit, ouais, alors, écoutez, finalement, ce serait peut-être plus facile, on va créer une église pour ceux-là, une église pour ceux-là, parce que là, j'en peux plus, vous me cassez trop les pieds, je suis découragé, ça ne va pas aller. À jamais, il ne tombe dans cette tentation. Toujours, il remet à nouveau l'ouvrage sur le métier pour dire, c'est notre vocation, c'est là qu'on doit regarder, indépendamment des difficultés. Je vous pousse à aller là parce que le Saint-Esprit me pousse à aller là. Alors, je ne vais pas forcément ici faire toute une manière du comment faire l'accueil de l'autre parce que les manières de faire seront aussi nombreuses que les rencontres. Par contre, il est essentiel qu'en communauté, nous regardions dans cette direction, qu'en communauté, et quels que soient les défis qui se présentent devant nous, nous restions fidèles à cet appel de Dieu pour notre réalité ici au cœur de Nyon. Nous n'avons pas le choix si nous entendons suivre la volonté de Dieu. Et puis, je vais terminer par faire allusion à un texte qui est très intéressant, qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15. C'est Paul qui arrive, qui débarque à Jérusalem, et puis il rencontre pour la première fois les responsables de l'église de Jérusalem, qui était l'église qui avait le plus d'autorité à cette période-là. L'église, finalement, qui était encore dans la capitale d'Israël et qui avait une certaine autorité. Il se rend à cette rencontre parce qu'il y a été invité, parce qu'il y a eu des tensions dans une des églises dans laquelle il avait annoncé cette bonne nouvelle qui n'était pas seulement pour Israël, mais pour l'ensemble des peuples de la terre. Et c'est très intéressant que le premier conflit que nous relate le Nouveau Testament entre responsables d'église, c'est un conflit précisément sur cette question de cette ouverture révolutionnaire à tout le monde. Ça pose des questions, ça pose des tensions, et Paul les affronte de manière très offensive. Il va résister au fait de se dire que cette bonne nouvelle qui est offerte par Jésus-Christ, elle puisse être amoindrie par des connotations humaines ou des aspects, je dirais, de confort ou de traditions diverses. Il continue de dire la seule mission qu'il nous a donnée, Jésus-Christ, c'est d'ouvrir cette bonne nouvelle à tout le monde. Ce premier conflit trouve son origine dans la difficulté de véritablement accueillir l'autre. C'est dire que le défi qui nous est proposé, il n'a pas pris beaucoup de rides. Il reste valable. Il reste un défi avec une marche qui est haute. on l'a revu avec notre contexte politique. Simplement, et ce conflit nous le met en évidence, j'aimerais bien faire une fois une prédication sur ce texte-là, parce qu'il est magnifique. Paul ne lâche rien. Il continue dans cette voie, parce que c'est une ouverture extraordinaire qui nous est donnée. Passer du Messie d'Israël à Messie pour les nations, vous l'avez compris, c'est pas rien, et c'est quelque chose qui nous met en route. Et toute la suite de notre culte va être une mise en route très joyeuse. Je vous relis ce texte. « Et les non-juifs rendent gloire à Dieu à cause de sa bonté ou de sa compassion. En effet, les livres saints disent, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fêter tout cela parmi les peuples, faire la fête. Je chanterai en l'honneur de son nom. Louange qui s'élève vers Dieu, parce que le Messie d'Israël est devenu le Messie de toutes les nations, pas seulement d'un seul peuple, mais de l'ensemble des peuples de la terre. Les livres saints disent, peuple, au pluriel, réjouissez-vous avec le peuple que Dieu a choisi. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. » Peut-être maintenant vous comprenez pourquoi on a voulu mettre cette temps de louange à la toute fin. On se dit, bon, voilà, on va pouvoir se rassembler et puis se dire, on va faire monter nos louanges vers Dieu. Et que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et je vais terminer là-dessus. Amen.